Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Renaud Muselier, bonjour.
Bonjour.
Président LR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tiens, dans la région, nouvelle chaîne de télévision à Marseille, BFM Marseille-Provence, depuis hier.
Hier, BFM Marseille, oui. Ce soir Toulon, demain Nice.
Formidable
bienvenue
pour la région.
Bienvenue à BFM. Là, c'est oui. Vraiment une chaîne de proximité sur nos différents territoires. Avec DC TV qui est BFM oui. D'ici, dans les Alpes, ça fait grosso modo la totalité de la région qui est couverte. Donc, bon. On est les premiers en France, comme d'habitude dans la région.
Bon, des responsables de votre parti LR, des militants, sont-ils aujourd'hui complaisants avec Éric Zemmour ?
Ah oui, bien sûr. C'est surtout certains cadres qui sont particulièrement complaisants.
Qui certains... est complaisant avec Zemmour ?
Ben, vous avez un certain nombre de parlementaires, et en ce qui concerne, et nous dans le Sud notamment, certains maires, et un des candidats à la présidence du mouvement. Éric Ciotti qui dit très clairement que entre Monsieur Macron et Monsieur Zemmour, il voterait Monsieur Zemmour. Et quand vous voyez que Monsieur Zemmour dit que Madame Le Pen est de gauche, on se dit que là, quel est le niveau de la dérive. Et donc, c'est une dérive à l'intérieur de ma famille politique que je combats.
Vous combattez cette dérive, vous la condamnez, cette dérive. Éric Ciotti préside la commission d'investiture. Chez LR, investiture aux législatives notamment. Alors, que demandez-vous ?
Je demande, d'abord, je salue le travail de Christian Jacob qui a su oui. Organiser ça, et donc c'est une première chose. C'est-à-dire le congrès, la façon dont ça se passe, même s'il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, en tout cas il a réussi à faire revenir tout le monde à la maison. Deuxièmement, dans nos statuts, c'est l'article 38, il y a le fait que tous les candidats, dans le cadre de la campagne présidentielle, ne peuvent pas avoir des instances nationales. Or, monsieur Zemmour, vous voyez le lapsus, monsieur Ciotti, pilote et président de la Commission nationale d'investiture, conformément à l'article 38, il n'a pas à l'être. Donc j'ai écrit à monsieur Jacob pour lui demander d'enlever pendant la durée de la campagne monsieur Zemmour qui se sert de sa fonction,
monsieur Ciotti
qui se sert
décidément,
de sa
décidément hein.
Décidément. Oui, mais enfin c'est bonnet blanc et blanc bonnet, donc tout ça
bonnet blanc et blanc bonnet.
Écoutez, il a fait campagne contre moi au régional.
Oui.
Il dit aujourd'hui qu'il est proche de M. Zemmour plus que de M. Macron. Ses propos dans le cadre de sa campagne sur le fond et sur le thème ne correspondent en rien à l'héritage de notre famille politique, à ce que nous avons fabriqué. De oui. Gaulle, Chirac, Sarkozy, Seguin, on est dans une logique de la droite RPR. J'étais membre fondateur de l'UMP, de LR. Il y a toujours une barrière avec l'extrême droite. Il n'y a pas des clins d'œil, des caresses et des mamours. Ça n'existe pas, ça, chez
mais
vous.
Mais il n'y a pas de parole forte pour le dire dans votre parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui dans votre parti LR prend la parole pour dire nous n'avons rien à voir avec Éric Zemmour?
Monsieur Jacob l'a dit, monsieur Barouin l'a dit,
monsieur
Larcher aussi.
Il a dit qu'Éric Zemmour n'était ni raciste ni d'extrême droite.
Oui, mais il a dit que ça ne correspondait pas à nos valeurs politiques. Donc en tout cas peut-être les oui. paroles sont pas suffisamment fortes. Peut-être. En tout cas, pour cela, moi, je suis membre du bureau politique, je suis élu président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ma colonne politique qui est LR avec les bras rassemblés. Je fais le premier score de droite en France avec 57% des voix et je vous dis que je ne veux pas de cette droite, qui est une droite qui nous amène au désastre. M. Ciotti a même dit que j'allais perdre avec le déshonneur dans le... Mais c'est pas ça, c'est eux qui nous amènent à la défaite, comme nous l'avons fait avec M. Bellamy aux européennes, où nous avons perdu avec le déshonneur. C'est une droite qui se rétrécit, qui s'affaiblit et qui nous amène à 8%.
Le parti,
donc ce n'est pas ma droite,
parti doit-il affirmer publiquement qu'il n'appellera jamais à voter Éric Zemmour?
Ben, chacun fait ce qu'il veut dans notre parti, ça c'est la liberté oui. quand même. En oui. tout cas, je fais partie de ceux qui n'appelleront jamais à voter pour M. Zemmour.
Jamais.
Jamais. En comme je n'ai jamais fait avec Mme Le Pen. Mais vous avez aujourd'hui un débat qui est piloté. En fait, vous avez une bagarre pour le leadership à l'extrême droite.
Oui.
Vous avez Éric Zemmour qui est le bras armé ou le soldat de Marion Maréchal Le Pen et qui est le clone ou l'avatar de Jean-Marie Le Pen en étant plus extrême. Et lui-même dit aujourd'hui que Madame Le Pen, Marine Le Pen, est une sombre gauchiste presque. Donc on se retrouve vraiment.
Il y a du mépris d'ailleurs de la part d'Éric Zemmour pour Marine Le Pen.
Bah, ce qu'il vient de dire hier il a plein et donc c'est une forme de mépris, de dédain, de rejet. Bon, ben, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on doit faire la politique. Moi, je pense que dans la vie politique, on doit respecter ses adversaires. Et en plus, ce sont ses anciens amis. Hein, il vient lui tailler les croupières et il la méprise.
Bien, Renaud Muselier, question directe, la primaire. Pour qui voterez-vous ?
Alors pas pour Ciotti, vous l'avez compris. Hein.
Non, ça, j'ai non, compris.
Moi, j'ai une affection particulière pour deux personnes, trois personnes particulièrement.
Ah bon. Moi,
sur cinq. Oui, non, mais par exemple, Juvin, il peut pas gagner, Philippe Juvin. Ouais. Mais on était députés européens ensemble, on était médecins, on est médecins tous les deux. Il a été un remarquable gestionnaire de la crise, et donc c'est un homme qui a du bon sens, qui est raisonnable. Barnier, j'ai été son ministre. Aux affaires étrangères, c'est un homme remarquable. Il connaît parfaitement le système européen, il connaît parfaitement la France, et donc il a une densité. Mais il y en a un autre qui est susceptible de gagner dans les sondages. Mais vous allez voir que tant il c'est pas le mieux placé que c'est Xavier Bertrand. Avec Xavier, quand j'étais président des régions de France, on a beaucoup travaillé. Xavier et Valérie, donc ce sont des gens qui sont performants.
L'un des trois.
Oui, c'est non, mais j'aimerais quand même que notre famille politique sorte
vous
que celui.
Savez pour qui vous allez.
Je vais regarder vos débats. Je regardais vos débats, ça m'intéresse.
Mais pas décidé aujourd'hui, franchement.
J'ai décidé pour qui je ne ferai pas campagne et je veux voter pour celui qui a le plus de chances de gagner, en fait.
Honnêtement, aujourd'hui, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?
J'ai une forte conviction. Mais j'ai pas encore. Ça sera moi, ça sera Barnier ou Bertrand.
Barnier ou Bertrand ? Oui. Vous n'avez pas encore choisi l'un des deux. Barnier, je ne sais pas pourquoi.
Non, Barnier a un niveau, mais on se rend bien compte aussi que Barnier n'a pas que des avantages aussi.
Oui,
et Bertrand, c'est pareil. Il n'a pas que des avantages. Moi, je veux gagner.
Aujourd'hui.
Je veux gagner, je veux que ma famille gagne.
Oui, ça, j'ai compris.
Voilà.
Et donc, Barnier, c'est celui qui peut vous faire gagner?
Et je suis pas sûr. Je sais pas qui peut me faire gagner. Si on le savait, peut-être qu'on serait plus raisonnable.
Oui.
Voilà. Tandis que là, on voit bien qu'elle a des raisons. Tout le monde est candidat à la présidence de la République. Enfin, il y a un problème de niveau, vous savez, dans la vie, quand même. Et donc, bon, c'est pas parce qu'on pense qu'on peut l'être qu'on...
Vous voterez Emmanuel Macron à la présidentielle?
En tout cas, si c'est au deuxième tour l'extrême droite contre Macron, je n'irai sans hésiter, je voterai Macron. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je l'ai fait la dernière fois. Je le ferai la prochaine fois.
Et même au premier tour?
Ah non, au premier tour, c'est encore autre chose. J'ai dit, quand j'étais candidat au régional, parce que je reviens toujours sur cette histoire des régionales, parce que c'était un moment...
Marqué,
c'est-à-dire que j'ai été chassé par ma propre famille politique, alors que j'en suis un des cadres éminents, en quelque sorte. On a mis la région en difficulté par rapport au Front National. Certaines de ma famille politique ont fait campagne contre moi pour faire élire M. Mariani, donc le Front National. Et on se retrouve dans une situation où on a perdu, comme ami LR, le maire de Toulon. La métropole, on a perdu M. Estrosi, le maire de la présidence de la métropole de Toulon. On a beaucoup de métropoles en France à l'air pour se permettre de les perdre comme ça et mettre en difficulté la région de France qui est la plus difficile à garder, à conserver par rapport au Front National. Ça sert à mes amis politiques. Ceux-là, c'est pas mes amis. Hein. Ceux-là, je veux les combattre. Hein. Or, ceux-là, ils voteront Front National contre M. Macron. Moi, je suis dans la culture.
Rassemblement National, mais
Rassemblement
Éric
National.
Ciotti, si Éric Ciotti l'emportait à la primaire, vous faites quoi?
Ah mais moi je quitterai immédiatement le LR. Je démissionnerai immédiatement. Je quitterai ma famille politique. Ça voudra dire que je suis minoritaire et archi minoritaire dans ma famille politique. Que ma famille politique a décidé de mettre en place quelqu'un qui a plus de la droite de l'extrême droite. Bon et donc je démissionnerai immédiatement de ma famille politique.
Immédiatement. Et pour la présidence.
Donc j'invite tous ceux qui veulent bien, tous ceux qui sont raisonnables, tous ceux qui veulent un avenir pour la droite, tous ceux qui ont une expérience de gestion, de savoir-faire, et pas de haine, de rejet, d'antipathie, de mesquinerie, de méchanceté, de trahison, de trahison. C'est genre au milieu des traîtres, là, quand même. Donc, de toute façon, la seule chose qui compte, il faut bien le savoir, c'est que M. Ciotti, chaque fois qu'il soutient quelqu'un, il perd. Donc, il ne faut jamais être soutenu par M. Ciotti.
Et pour la présidence de l'Association des maires de France, pour qui voterez-vous?
Je voterai pour Philippe Laurent.
Face au maire de Cannes, David Lisnard.
Ben, bien sûr.
Et pourquoi? C'est un homme...
Philippe Laurent.
David Lisnard, il fait partie de LR, de votre parti politique, et vous allez voter pour un homme qui est centriste.
Mais David Lisnard a fait campagne pour faire élire M. Mariani, pour faire élire dans le Rassemblement National, ou le Front National à Cannes. À Cannes, il y a 20 points d'écart entre son candidat au cantonal et les régionales. Je suis en dessous de la moyenne régionale. C'est-à-dire que celui qui se présente aujourd'hui à l'Association des maires de France pour justement gérer l'ensemble de ces communes de France avec les équilibres, avec la nécessité d'avoir une bienveillance pour tout le monde, de respecter les... Il m'a fait un procès en intention. Et aujourd'hui, il se marie avec les socialistes, les communistes et les verts. Jamais les macronistes, allez savoir pourquoi, parce que c'est le diable. Alors que les autres qu'il a combattu toute sa vie deviennent des alliés. C'est un opportuniste. Et de surcroît, nous avons fabriqué avec M. Barouin, M. Bussereau, M. Morin, moi-même, sous l'autorité de M. Larcher, Territoires Unis, où l'ensemble des grandes associations d'élus, maires, départements et régions, on a travaillé ensemble pour justement avoir ce projet de décentralisation avec le gouvernement, pour traiter sur... vous croyez que le maire de Cannes est assez représentatif du territoire français et assez ouvert, compte tenu de son passé, pour savoir, c'est pas le festival de Cannes avec le tapis rouge, hein. Il n'est pas représentatif en tant que tel de toutes les communes de France. C'est un homme solitaire qui se sert de cette sortie de Monsieur Barouin pour essayer de prendre la place. Donc moi, je suis pour Monsieur Philippe Laurent, qui a une équipe harmonieuse, équilibrée, ouverte, représentant toutes les sensibilités politiques. Et je pense qu'il serait un remarquable président de l'Association des maires de France. Vous avez compris que je fais campagne.
Est-ce que vous soutenez les bénévoles des Restos du Cœur qui ont refusé de servir des sans-papiers à Fréjus?
Oui,
vous les comprenez?
Bien
vous
sûr
les
que je les comprends, bien sûr que je les comprends, bien sûr que je les comprends. Mais
vous les comprenez, mais vous les comprenez, mais vous.
Mais c'est toujours particulier, ça se retrouve à Fréjus quand même, hein, vous savez, oui, que le maire de Fréjus.
Vous auriez fait la même chose.
Ça dépend des ennuis qui se passent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, se passe beaucoup à Fréjus, ce qui est assez bizarre quand même pour une ville qui est tenue par un membre du Rassemblement National. Peu importe. Il faut qu'on restaure l'autorité et le respect de l'autorité. Là, il y a un problème très simple. Vous avez des bénévoles qui sont menacés. On ne peut pas l'accepter. Et donc, il faut bien entendu les soutenir et les accompagner.
Les soutenir et les accompagner. Et les réfugiés qui se retrouvent dans des locaux de l'évêché à Briançon, Hautes-Alpes.
Oui, je sais.
C'est Briançon, une des villes de votre région.
Tout à fait.
Renaud Muselier. Que fait-on avec ces réfugiés qui, pour la plupart, viennent d'Afghanistan, qui sont pour la plupart des hommes jeunes, avec des familles aussi, avec même, je crois, un ou deux bébés.
Tout à fait.
Alors, que fait-on? On leur donne asile?
On est obligé d'en prendre soin. On peut pas les laisser mourir dans le froid là-bas.
Solution d'hébergement.
Alors attention, il y a le droit à faire respecter. Encore dans le droit à faire respecter. Et vous avez ceux qui passent et qui sont pris, ils doivent être amenés à l'Italie. Hein. Donc là, on a un problème européen, mais sur le plan de la législation française, vous devez, ça c'est humain, les accueillir. D'ailleurs, je vais donner des moyens complémentaires pour qu'ils ne soient pas dans un Algeco à 2000 mètres d'altitude, hein, parce que quand ça se passe à la frontière, il faut donner les moyens.
Ils sont dans des locaux de l'évêché.
Il faut donner. Non, mais c'est après quand ils descendent.
Oui.
Après, parce que vous avez la frontière, le passage à la frontière, les douaniers, le passage à la frontière, le risque aussi.
Des 150 ou 200 réfugiés pour la plupart.
Ça c'est après.
Ils sont à Briançon.
Eh bien, vous les prenez, vous les ramenez au territoire d'origine par rapport à la rentrée. C'est-à-dire, ils repartent en Italie, qui eux-mêmes doivent faire le chemin inverse.
Repartir en Afghanistan. Vous savez que ce sont des Hazaras.
Je sais.
Les Hazaras sont pourchassés par les talibans.
Sauf qu'il n'y a pas que des.
Ce sont des chiites.
Sauf qu'il n'y a pas que des Afghans dans cette affaire-là.
Oui, c'est
vrai. Et le traitement des Afghans peut être quand même traité de façon différente au niveau du droit d'asile que les autres pays voisins.
C'est-à-dire qu'on donne asile aux Afghans et pas aux autres.
Ça paraît évident quand même. Hein. Compte tenu de ce qui se passe en Afghanistan, les moyens qu'on y a mis et aujourd'hui la façon dont on est parti en race campagne, il me paraît évident que ces pauvres Afghans qui cherchent la liberté pour la femme, la liberté d'expression, enfin tout ce qui se passe par rapport aux talibans, font en sorte que quand même, ils sont pas tellement nombreux pour ne pas pouvoir les intégrer.
L'épidémie de Covid repart doucement, mais elle repart, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez vu le taux d'incidence qui remonte, ça vous inquiète?
Pas tellement, mais je reste particulièrement vigilant. On est à 50, on est passé à 60, 70. On a un taux d'incidence où il y a 1, on est passé un peu au-dessus de 1.
72 cas pour 100 000 habitants.
Voilà, mais on était à 400, à 500. Donc on est loin de la crise.
Oui.
Mais néanmoins, il faut être d'une vigilance totale parce qu'on voit qu'on est à plus de 1, donc ça se transmet.
Oui.
Donc moi, si j'ai un petit conseil à donner quand même, au-delà de ce que nous allons faire, nous, ce que nous faisons avec les autorités de l'ARS, et on a été assez performant dans la première, la deuxième, voire la troisième vague. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous, ça vous évitera la réanimation.
Oui.
Voilà.
Celui qui dit qu'il ne faut pas se faire vacciner est un assassin potentiel, vous l'avez dit.
Oui. Moi,
vous le redites?
Je le redis, je l'affirme et je le confirme.
Oui.
C'est-à-dire que moi je suis prudent, je suis médecin, j'ai une double vaccination.
Double vaccination.
C'est ma première sortie aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis en grande difficulté. Hein. Ouais. Alors je ne suis pas allé en réanimation.
Vous avez été infecté par le virus. Après une double vaccination.
J'en ai contaminé, moi, parce que je sais pas qui m'a donné, mais j'en ai contaminé 12, qui étaient tous double vaccinés. Les incidences ont été très différentes. Moi, j'ai été le plus contaminé, le plus touché. 10% de mes poumons étaient touchés. Je suis pas allé en réanimation, mais c'était
grâce au vaccin.
Mais si je suis pas vacciné, je suis en réa, je sais pas comment je finis, voilà. Donc je dis aux gens, vaccinez-vous, voilà. Parce que vous allez aller en réanimation si vous l'attrapez. Et personne ne peut passer à travers.
Vous pourriez dire cela à Didier Raoult? Dites-moi, est-ce que vous gardez toute votre confiance à Didier Raoult?
C'est lui qui m'a soigné. Bien sûr, je garde la totalité de ma confiance à Didier Raoult. Voilà,
Malgré
tout ce qui est écrit, la chasse au Raoult continue, très bien.
Est-ce que c'est de la chasse au Raoult? Franchement, vous avez lu les articles de l'Express et de Mediapart?
C'est la chasse au Raoult, mais je vais le présenter différemment si vous le souhaitez.
La première question,
c'est de me dire est-ce que je soutiens Raoult? Oui. Raoult, je le soutiens.
Vous avez toujours confiance.
Je ne lâcherai jamais. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, Raoult, quels que soient les articles, la chasse, etc., il part d'ici la fin de l'année.
Bon. Logique.
Ben logique, c'est la retraite, hein, donc il y a un moment où logique ou pas logique.
Il pourrait cumuler emploi retraite.
Oui, non, mais donc il y a un moment où bon, là je fais en sorte que voilà, c'est la logique. Bon, donc oui, logique quelque part. Donc il pilote l'IHU. L'IHU est un des outils. L'hôpital universitaire infectieux de Marseille est un des plus beaux centres anti-infectieux d'Europe. Et à continuer à vouloir se faire Raoult va condamner l'IHU qui est de réputation mondiale.
Ça veut dire quoi? Donc, vous dites que l'APHM,
oui,
l'association, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pourchasse Raoult.
Non, je dis que il y a je dis pas que le directeur de l'assistance publique de Marseille chasse Raoult. Je dis que de nouveau, on se retrouve avec une chasse au Raoult.
Mais parce qu'il y a une enquête interne qui est ouverte.
Eh ben, qui est laissée
par l'APHM.
Mais
sur quoi? Vous savez sur quoi? Avez suivi ça de près, vous êtes médecin.
Je suis à très près, je suis au conseil d'administration.
Un cocktail inédit de molécules qui ont été...
Mais laissez faire l'enquête, et alors? On verra qui a raison. Mais ça, c'est, vous le savez, vous?
Non,
je sais pas.
Je vous dis ce qui est en cours.
Mais si vous dites ce qui est en cours, vous dites ce que vous avez écrit. Je suis membre du conseil d'administration. Je n'ai pas ces documents. Bon, donc la réalité, c'est que il y a une enquête en cours. Il y a des enquêtes en cours souvent. C'est pas pour ça qu'ils sont condamnés ou condamnables. On fait une enquête. On verra le fruit de l'enquête. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à M. Raoult, Monsieur le professeur Raoult, il s'en va à la fin de l'année. On va plomber l'IHU, là?
Parce que
l'IHU est un outil. L'IHU est un outil quand même exceptionnel, quand même.
Oui.
Et donc, sa réputation mondiale est en jeu aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut faire les choses sans pour autant faire abstraction de l'enquête?
Non, mais le débat, est-ce que Didier Raoult a toujours raison?
Qui a toujours raison dans la vie?
Non.
Voilà, je veux dire, c'est
non, mais
voilà. Dans le domaine de la science, je fais plus confiance à Raoult qu'aux spécialistes des plateaux télé. Je ne parle pas de vous, hein, parce que vous n'êtes pas un spécialiste. Vous êtes un spécialiste de l'entretien politique.
Quand même, plusieurs molécules, vous êtes médecin.
Oui.
Un cocktail de plusieurs molécules réputées inutiles, voire dangereuses pour lutter contre la
tuberculose. Laissez faire l'enquête.
Contre la tuberculose.
Mais vous l'avez condamné, Raoult.
Ont eu de graves complications.
Mais c'est quoi?
Un mineur. Été déclaré.
Bon, écoutez, l'enquête. On verra ce que dira l'enquête.
Dans tous les cas, Philippe Douste-Blazy, lui, a reconnu avoir été dupé. Vous aussi, vous avez été dupé?
Mais je connais Raoult depuis que je suis à la faculté à 20 ans. Qu'est-ce que je vous dise? Raoult, il est Raoult. Bon. S'il est aussi fort ou aussi puissant, c'est qu'il a des traits de caractère qui sont attachants et d'autres qui sont un peu désagréables. Voilà. Bon. Ça n'empêche pas que ça reste mon ami.
Je termine avec l'ouverture à la concurrence des TER dans votre région. J'ai vu les syndicats de cheminots qui ne sont pas contents, qui vont protester. Vendredi, officiellement, sera votée cette ouverture à la concurrence. Ouais. Transdev, qui va assurer la liaison Marseille-Nice, Renaud Muselier, c'est formidable pour la région. Peut-être pour les cheminots, non?
Forcément.
Ils vont être transférés.
Eux, ils sont assis sur un monopole depuis toujours.
Oui.
L'Europe nous permet d'avoir, et c'est fait dans un certain nombre de parties d'Europe, d'avoir justement cet appel à la concurrence. On a fait un appel à concurrence sur 40% du trafic régional. Deux appels. Un qui a été gagné par la SNCF, qui représente 30%. Un de 15% qui a été gagné par Transdev. Ils me contestent pas l'appel à concurrence sur le volet qu'ils ont gagné.
Oui.
Pourquoi? Pourtant, ils ont gagné, là.
Et l'autre côté,
sur la totalité de la région. Et là, sur le deuxième, ils ont perdu. Mais ils ont perdu parce qu'ils sont moins bons.
Pourquoi ils sont moins bons? Ils sont moins bons. Pourquoi?
Je sais pas. Moi, je fais un appel à projet. Je fixe une règle. Je double le nombre de transports entre Marseille et Nice aller-retour. J'achète des rames. Je n'augmente pas le prix du billet. Enfin, l'institution n'augmente pas le prix du billet. Je mets en concurrence. Et à suite de l'appel en concurrence, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Si c'était trois, il y avait un Italien. Il y en a un qui est meilleur que les deux autres. Voilà, terminé. Oui. Au revoir et merci. Alors, forcément, là-dedans, il y a une inquiétude.
Plus de trains et des billets pas plus chers.
Oui, le même prix.
Le même prix.
Oui.
Garanti.
Oui. C'est la condition sine qua non. Mais la SNCF est capable de gagner, puisqu'ils ont gagné l'autre partie. Pourquoi ils disent pas, voilà, on est très fort, on a gagné l'autre partie? Ils sont capables de gagner. Quand ils travaillent, quand ils sont mis en concurrence, quand on leur met la pression. Parce qu'on leur a cassé quand même le monopole dans le cadre du contrat que nous avions précédemment. Parce que dans ce contrat précédemment, on payait la totalité des trains, on avait le plus mauvais service français. On avait 80% de trains à l'heure, c'est 20% de trains qui n'arrivent pas à l'heure. On avait 10% de trains annulés, ça veut dire 10% de trains qui ne partent pas. On prévenait personne. On a mis une certaine pression, ils nous ont attaqué au tribunal, on a gagné tous nos procès, on a ramené à la région près de 160 millions d'euros de manque à gagner pour eux d'ailleurs. Et du coup, ils sont à 92% à l'heure et il n'y a qu'un pour cent de trains annulés. Quand il y a la pression, il y a l'efficacité et il y a même la victoire.
Merci Renaud Muselier d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Merci.